reflet sur un thème de Bach. Reflet, et non réflexion, donc la différence est moindre, mais quand même présente. C'est l'idée d'une image qui va être reproduite, mais avec un autre éclat, qui ne sera pas forcément le même. Parler, écrire avec son propre idiome. Alors je ne sais pas si Sofia Gubaidulina a voulu écrire à partir de Bach, mais c'est une commande du quatuor Brentano qui a proposé à plusieurs compositeurs d'écrire une pièce courte qui réfléchit sur une fugue particulière de Bach. Donc effectivement, Gubaidulina va reprendre une des fugues qui a été insérée dans l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est une œuvre qui a été écrite entre les années 1740-1749. Bach n'a pas terminé cette œuvre entière. Et donc dans cette œuvre, il y aurait une fugue à trois sujets. Il y a plein de choses qui entrent en jeu dans l'écriture de Bach, notamment aussi la symbolique et la symbolique des nombres. Donc il s'est arrêté à la mesure 239, premier temps. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc B-A-C-H, Jean-Sébastien Bach. En notation allemande, ça signifie les sons si bémol, la, do, si. Ti, ta, to, ti. La lettre B correspond au si bémol. Et si on monte par rapport à la notation anglo-saxonne, on aura donc B, c'est 2. Puis le A, c'est le 1. On aura si bémol, la, et donc le C, c'est le 3. Et le H, en Allemagne, c'est le 8. Bach s'est arrêté à la mesure de 239 premier temps. Donc, ça fait la mesure 238. Donc, on retrouve 2, 3, 8, et puis le 1 de la premier temps de la mesure 239. Donc, c'est pas anodin s'il s'est arrêté là. Il s'est pas arrêté là parce qu'il est mort. Parce qu'il y a eu quand même quelques mois qui se sont écoulés jusqu'à sa mort. Il a continué d'écrire une autre grande œuvre de la fin de sa vie qui est l'offrande musicale. Donc ça laisse plein de questions en suspens. Jean-Sébastien Bach atteint l'apogée d'une écriture complexe et scientifique qui est développée progressivement lors des époques précédentes. Est-ce que Bach ferme ou est-ce qu'il amène une ouverture vers la musique d'aujourd'hui ? C'est sûrement pas anodin que le quatuor Brentano a proposé à Sofia Gubaidulina, puisque son écriture fait qu'appuyer, soutenir, développer ce que propose Bach en utilisant différentes notions mathématiques et géométriques. La notion de fractal, la série de Fibonacci, le nombre d'or. La symétrie, en reprenant les sons de Bach, ti, ta, to, ti, le proposer par mouvement contraire, par mouvement rétrograde, comme si on avait une espèce de miroir entre le mot BAC, B-A-C-H, puis H-C-A-B. L'élément initial de sa pièce commencera par pa, 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 pa. Donc on retrouve la même image après une introduction qui englobe le son principal formé d'un cluster du violoncelle jusqu'au premier violon, donc c'est très spatial, avec une glissade. Donc on a un groupe de sons, un paquet de sons, comme dirait Jacques Siron. Mouvement descendant, ascendant, descendant, qui rappelle la forme de la croix. Elle pense le quatuor de deux manières, soit en quatre individus, mais aussi et beaucoup en un seul instrument de 16 cordes. Elle va rechercher les extrêmes graves, les extrêmes aigus. Et en même temps, vouloir homogénéiser en faisant passer son son à travers les quatre instruments ou en faisant une ligne plus directe. Plein de couleurs, de scintillements ou des couleurs beaucoup plus feutrées, contrastées, mais néanmoins qui se mélangent en sfumato ou les teintes se dégradant dans le sens passer d'une couleur à l'autre petit à petit. On dit en musique et en peinture chromatiquement, donc on voit bien les deux éléments qui se rejoignent. Et on pourra avoir ce schéma, cette vision à travers les vitraux, par exemple, dans les églises, dans les cathédrales. Gubaidulina va terminer sa pièce en insérant un choral. C'est un chant liturgique qui est en général harmonisé à quatre voix, donc un chant vocal. J'insiste là-dessus parce qu'on peut beaucoup chanter également avec les instruments à cordes. Et soit on aura une écriture, ce qu'on appelle syllabique, en homorythmie, le même son au même moment pour tous les instruments, pour toutes les voix. Ou bien, on pourra avoir un choral en contrepoint fleuri, c'est-à-dire avec des mélanges de rythmes qui vont se compléter, se chevaucher, se répondre. Sur ce choral, va se superposer la ligne de violoncelle, comme deux plans sonores, deux temps complètement différents. Une ligne de violoncelle qui reprendra mélodiquement le son initial de la pièce, comme un souvenir, une réminiscence. On pourra constater que Gubay Dulina nous propose une forme en boucle, un cercle, comme un cycle. Sa musique, c'est vraiment cette idée du cycle, de quelque chose qui va toujours se renouveler. On a le son, l'espace, la résonance, mais aussi un élément qui est très important chez Gubay Dulina, c'est le silence. Le silence à la manière de Webern, qui est un compositeur qui a beaucoup travaillé sur l'espace et la résonance, parce qu'un silence est une résonance, est une matière. Est-ce que Sofia Gubay Dulina perçoit le silence de la même manière que Noguchi Yoneijiro, qui nous dit « J'écoute le chant de l'oiseau, non pour sa voix, mais pour le silence qui le suit. » Deux éléments importants, ce silence, le signe de la croix par les mots, par l'écriture, par les noms, les lettres de Bach qu'elle réutilise dans son œuvre. Et elle dit « Chaque composition est un travail énorme pour moi. Au début, j'entends intérieurement un son vertical d'accords colorés, émouvant, conflictuel, complètement mélangé. C'est merveilleux et beau, mais ce n'est pas réel. Mon travail consiste à transformer ce son vertical en une ligne horizontale. Ces deux lignes, horizontale et verticale, font une croix, et j'y pense quand je compose. »